Oh Dieu, nous désirons du plus profond de nos cœurs terminer cette journée, cette semaine dans ta présence. Rends cette présence sensible à tous nos cœurs, à notre et parle-nous comme si individuellement nous étions seuls avec toi. C'est la grâce que nous te demandons. Donne-nous vraiment de pouvoir parler comme étant ton oracle et te servir par la force que tu fournis pour ta seule gloire. Amen. Eh bien, mes amis, en cette soirée du 13 juillet, nous allons continuer notre étude de ce livre des Proverbes. Nous ferons la lecture de ce chapitre premier. Nous avons déjà considéré ce matin les 6 premiers versets. Et ce qui nous arrêtera ce soir, ce sont les versets 7 à 33 de ce premier chapitre. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, je dis quand même le début sans y revenir. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, ou une autre version dit, le sage écoutera, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leur sentence. Nous avons dit ce matin que dans ce préambule, nous trouvions l'auteur du livre des Proverbes, Salomon, fils de David, le grand roi d'Israël. Nous avons considéré en second lieu le but qui est indiqué, le but que l'auteur se propose en nous donnant ses enseignements, c'est apprendre à discerner ce qu'il nous faut faire, l'art de vivre selon Dieu sur la terre. Et enfin, nous avons vu à qui ces proverbes étaient adressés. Il y a trois genres de personnes qui sont mentionnées, les simples, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore d'expérience, qui sont peut-être naïfs, mais qui doivent apprendre la sagesse, des gens qui ont le cœur ouvert, qui ne sont pas braqués, qui ne sont pas butés, puis les jeunes gens, qui évidemment manquent encore de maturité, d'expérience, et enfin les sages, ceux qui ont déjà de la connaissance, eh bien, ils acquerront encore davantage de savoir. Je ne sais pas dans quelle classe vous vous placez, si vous êtes parmi les simples ou parmi des jeunes sans beaucoup d'expérience ou déjà parmi des sages, mais vous pouvez en tout cas être assuré que le Seigneur, par ses instructions, a quelque chose de très personnel à vous dire, qui que vous soyez. Et nous avons simplement souligné quelques règles que nous allons appliquer en étudiant chacun de ces chapitres, et je vous les cite pour que vous puissiez vous en rappeler et les appliquer déjà ce soir, parce qu'il n'est pas question que vous écoutiez une réunion de mes lèvres, mais qu'ensemble nous écoutions l'enseignement du Dieu vivant, car c'est là le thème de notre temps. Alors, première règle, en lisant ces pages, c'est de chercher à bien comprendre la signification de chaque mot que nous rencontrons. Et si vous ne comprenez pas un mot, notez-le, et puis vous pourrez nous le demander ou en parler entre vous pour savoir au fond que veut dire tel mot. Bien comprendre le sens des mots que nous lisons. Deuxième règle, quand nous abordons l'écriture, nous le faisons avec un cœur humble, car c'est le secret pour que Dieu puisse nous bénir. Nous vous avons cité un texte de Matthieu, chapitre 11, où le Seigneur dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits-enfants. » Et si nous avons un cœur d'enfant, quand nous écoutons la parole, quand nous lisons les Écritures, eh bien, le Seigneur nous promet de nous faire comprendre ces choses. Nous les comprendrons si nous avons de l'humilité devant notre Dieu. Et troisième règle, nous allons nous laisser interpeller par le texte. Quand vous lisez cela, vous devez entendre quelque chose qui résonne au fond de votre cœur. Vous devez dire, mais ça c'est pour moi. Tiens, je suis dans telle situation, j'ai telle pensée, et ça me concerne. Alors vous le notez, vous vous laissez interpeller par un texte. Les uns seront interpellés par un verset, d'autres par un autre verset. Et vous savez, quand j'étais à Nice et que nous avons fondé l'œuvre du refuge, les meilleures réunions que nous avons pu avoir, c'était des réunions autour d'une très grande table où nous avions tous nos nouveaux convertis, nous lisions le chapitre et puis après nous partagions. Et nous disions, mais quel est le texte qui t'a arrêté et pourquoi? Et les uns et les autres disaient très simplement, ce n'étaient pas des prédicateurs, nous n'avions pas besoin d'une prédication, mais disaient, bien moi, c'est ce verset-là, et pourquoi? Et nous disant le pourquoi, nous étions tous édifiés. Et ce qui m'a frappé quelquefois, c'est que quand nous avions fait le tour de la table, nous pouvions peut-être être 25, eh bien s'il y avait eu 25 versets, ils avaient tous été examinés, parce que les uns s'étaient arrêtés sur un texte, les autres sur un autre texte. Et voilà, l'heure avait passé, on ne s'en était pas aperçu, et personne ne s'était ennuyé ou n'avait eu envie de dormir. Voilà une méthode qui nous a fait beaucoup avancer dans l'étude de la parole au début de cette œuvre du refuge qui a maintenant plus de 35 ans et qui, par la grâce de Dieu, prospère, même si nous ne sommes pas là. Parce que quand une œuvre est vraiment celle de Dieu, elle se continue, même en l'absence des hommes. Donc, nous nous laissons interpeller. Et puis, nous retenons justement, alors c'était la quatrième règle, une parole. Parce qu'il est dit que toute la parole, toute l'écriture est inspirée de Dieu, est utile pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous corriger et pour nous convaincre, afin de rendre l'homme ou la femme de Dieu parfaitement propre à toute bonne œuvre. L'action de la parole doit être vivante et opérante en nous. On ne peut pas lire la parole et rester les mêmes. Ce n'est pas possible. La parole ne nous laissera pas intacte. Et nous devons nous laisser façonner par la parole. Si vous voulez grandir dans la connaissance de Dieu, laissez-vous façonner par la parole. Vous dites, tiens, ça je n'avais pas compris. Bien, maintenant, il y a des choses qui vont changer. Je crois à cette parole. Et même si vous sentez toute votre faiblesse, vous allez à Dieu par la prière, puis vous lui dites, tu as dit cela. Eh bien, je le crois, je reçois cette parole, réalise cette parole dans ma vie. Moi, je ne pourrai jamais réaliser les paroles de Dieu. Je ne peux pas réaliser ce que lui demande. Mais si je reçois cette parole, je n'ai plus qu'à lui dire, eh bien, réalise ce que tu as dit en moi. C'est lui qui veut faire l'œuvre en nous. Vous croyez toujours que vous devez faire quelque chose. Et vous êtes découragé, vous êtes accablé, vous dites, c'est pas possible, je ne peux pas faire ce qu'il demande. Mais moi non plus, je ne peux pas faire ce qu'il demande. Par moi-même, je ne peux pas faire ce qu'il demande. C'est déjà la faillite, mais cette faillite, je la reconnais. Et alors, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il attend de moi que je lui dise, je me laisse faire, Seigneur. Fais avec moi ce que toi, tu veux. C'est d'un abandon que vous avez besoin, et non pas de cette lutte qui vous épuise, qui vous détruit intérieurement. Nous demandons à Dieu qu'il vous construise dans ce temps, que ce soit une œuvre qui vous édifie. Alors, comment est-ce que cela se fera? Bien, laissez-vous faire. Vous direz que je le répète souvent, mais j'aime à souligner que c'est la leçon que Marie, la mère bénie de notre Seigneur, nous a donnée. Elle ne peut rien faire. Quand l'ange lui dit ce qui va lui arriver, elle sait très bien que ça ne sera pas l'œuvre d'un homme. Alors elle s'écrie, eh bien, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire, je me laisse faire par toi. Fais de moi ce que tu voudras. Et c'est ça le vrai service du Seigneur. C'est lui donner notre vie et lui dire, bien maintenant, dispose. Dispose de ma vie. Fais ce que tu veux. Fais ce que ta parole nous enseigne. Fais-le en moi. Je m'abandonne. C'est là que le Seigneur attend de vous, que vous vous abandonniez. Cessez vos luttes vaines. Jetez-vous dans ses bras et dites-lui, maintenant Seigneur, si tu es le Dieu vivant, eh bien, et si ce sont les enseignements du Dieu vivant que nous recevons ici, nous les croyons, mais réalise-les en ma vie. Et croyez-le, vous le réaliserez. Mais il faut que vous cédiez, que vous abandonniez. Alors, cherchez à retenir une parole dans votre cœur. Puis, une autre règle que nous allons appliquer, c'est que chaque fois que nous lirons un chapitre, nous allons essayer de découvrir un portrait de Jésus. Vous allez dire, mais quelle est la parole qui nous parle le plus de Jésus, qui nous montre enfin une image de Jésus? Dans chaque chapitre, il y a 31 chapitres. Et je voudrais que vous ayez réellement 31 portraits de Jésus. Vous allez dire, oh ben alors, vous ne voudriez pas avoir 31 portraits de la personne que vous aimez et qui vous aime le plus? Hein? Pris dans des poses différentes. Moi, je trouve que c'est magnifique. Et ça nous renouvelle. Et on apprend à le connaître. Le connaître d'une façon amoureuse. Hein? Alors, nous allons essayer. Et pensez-y, quand nous allons lire ce chapitre, qu'est-ce que je peux découvrir, moi, comme portrait de Jésus? Peut-être qu'il y en aura plusieurs, des portraits différents. Mais si c'est toujours de la même personne, ça sera pris dans des poses différentes. Et je crois que ce serait très enrichissant que nous puissions partager cela. Puis, nous avons dit que même si certains textes nous diront « oui, mais ça n'arrive pas toujours », eh bien, souvenez-vous de cette autre règle. Eh bien, toute règle peut subir une exception. Il ne faut pas avoir des contradictions dans ce que nous allons lire dans les proverbes, et dites-vous, bien, la règle générale, c'est ça, c'est ce qui est dit, mais il peut y avoir des exceptions. Toute règle peut avoir une exception. Et il y en a beaucoup dans l'Écriture. à cause de la grâce immense de Dieu. Puis, la septième règle, c'est que nous allons essayer d'éclairer ces textes par des exemples pris dans les Écritures. Des hommes, des femmes peut-être, ou des faits qui vont éclairer une doctrine d'un de ces proverbes. Vous allez toujours penser à ça. Est-ce qu'il y a dans l'Écriture un exemple qui pourrait éclairer ce texte qui me paraît un peu difficile? La Bible s'explique par la Bible. Alors vous aurez une doctrine sûre et vous n'apporterez pas d'éléments étrange. Alors, nous commençons maintenant au verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la connaissance. Les insensés, et pensez tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'un insensé ? C'est un fou. C'est la même chose. Darby traduit les fous. Ici, second, les insensés. Mais ayez tout de suite une explication. Qu'est-ce que c'est qu'un insensé ? C'est un fou. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Même si nous ne l'avions plus, nous avons des souvenirs. Moi, je n'ai plus mon père, mais je l'ai aimé et je me souviens de l'instruction de mon père. Je me souviens de ce qu'il m'a enseigné quand j'étais tout petit. Et ne rejette pas l'enseignement de ma mère, de ta mère. Ma mère non plus, je ne l'ai plus. Mais quelques-uns savent que j'ai encore dans mon cœur les cantiques qu'elle m'a appris quand j'étais tout petit. Et que chaque fois que je les chante, c'est comme si j'entendais la voix de ma mère. Aujourd'hui encore. Car au fond, nos morts, ils sont dans le repos. Ils ont disparu à nos yeux, mais pour Dieu, il est dit que ils vivent. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et pour lui, tous sont vivants. Alors voyez, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Même si on l'a plus, il nous a peut-être laissé une instruction. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Et une parure pour ton cou. Sans qu'on ait besoin d'aller faire une grosse dépense chez le bijoutier. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, il faudrait savoir aussi qu'est-ce que c'est qu'un pécheur. Pas avec un circonflexe, parce que un pécheur, pas un pécheur. Qu'est-ce que c'est qu'un pécheur ? Est-ce que nous sommes des pécheurs ? Oui, nous sommes des pécheurs. Mais est-ce que vous voulez rester des pécheurs ? Non. Alors, mais il y en a qui veulent rester des pécheurs. Qu'est-ce que c'est qu'un pécheur ? C'est un homme qui pêche. C'est un homme qui pêche. Et qu'est-ce que c'est que le péché, alors ? Le péché, sans sortir de l'Écriture, il est dit que c'est la transgression de la loi. De quelle loi ? De la loi divine. Alors, vous connaissez cette loi divine ? Les 10 commandements, mais qui sont résumés par 2 grands commandements, l'amour pour Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, puis aimer son prochain comme soi-même. Alors, il y en a évidemment qui n'aiment pas. Alors, si ces gens qui n'aiment pas, qui sont des pécheurs, veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ah, c'est ça, mes amis. Parce qu'il y a toutes sortes de voix dans ce monde qui se font entendre. Et même si on est des fils et qui ont été enseignés dans la parole, eh bien, on subira peut-être cette influence, surtout quand on sort de la maison paternelle, qu'on n'est plus sous l'influence directe de nos parents. On va à l'école, on entend toute espèce de voix et on cherche à nous entraîner dans des choses qui ne sont pas bonnes. Et notre cœur naturel, peut-être, serait incliné à suivre ces voies. Verset 11. S'ils disent, viens avec nous. Ah, mais c'est des bons copains. Ils nous ont invités. Viens avec nous. Dressons des embûches. Versons du sang. Vous savez que c'est très moderne, ça. Hein? Viens avec nous, on va faire un hold-up. On a besoin d'argent. Peut-être même pour acheter de la drogue. Ben, viens avec nous. On va dresser une embûche, peut-être vers cette banque ou un magasin, que sais-je, ou un dépanneur. Puis, pourquoi est-ce qu'on ne verserait pas du sang s'il le faut? Tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Voyez, on fait une petite communauté. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répondre du sang. Puis alors, essayez de retenir ce verset. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Qu'est-ce qui a des ailes? Des oiseaux. Alors, quand un oiseau voit le filet, qu'est-ce qu'il fait? Il va plus haut. Il a des ailes. Hein? Alors, il évite le filet. Et il ne tombe pas dans le filet. C'est en vain qu'on met le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et le chrétien, lui, qu'est-ce qu'il a? Quand il voit le filet, quand il est averti, il va être baissé? Non. Le filet est là, mais il a les ailes de la foi. Pas seulement dans les cantiques, les ailes de la foi. Hein? Mais il s'élève au-dessus du filet. Et il passe, c'est pas nécessaire que vous tombiez dans le filet, si vous avez des yeux. Mais des yeux ouverts. Et c'est cela que les proverbes voudraient nous faire comprendre, que nous soyons des hommes et des femmes qui ont des yeux ouverts. Alors, on peut tendre le filet devant nous, mais on ne tombera pas dans le filet. C'est en vain que le filet est étendu devant les yeux de tout ce qu'il y a des ailes. C'est vrai que c'est un verset ça, qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, moi, ce verset, je le retiens. Hein? Et peut-être que vous pourriez le retenir ce soir pour vous. Vous ne tomberez pas dans le filet si vous avez les yeux ouverts par le Seigneur et si vous avez ces ailes de la foi. Et qu'est-ce que c'est cette foi? C'est dire, oh Dieu, donne-moi ta force. Fais-moi passer par-dessus. Et c'est lui qui vous fera passer par-dessus, par sa force toute puissante. Et eux, donc, ceux qui voudraient nous entraîner, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Vous trouvez que c'est difficile à comprendre? C'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Eux, ils pensent déjà, si on doit verser le sang, nous le verserons. Hein? Mais ils ne se rendent pas compte que c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. Ils veulent en dresser des embûches aux autres, mais au fond, si la police arrive, pendant qu'ils font leur hold-up, ben qu'est-ce qui leur arrive à eux? Ils peuvent être abattus, ils peuvent être descendus, ou, quand il y avait encore la peine de mort, s'ils étaient pris, c'était peut-être la peine capitale. Donc, ils dressaient contre leur propre sang des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Quand vous voulez tendre un piège à quelqu'un, c'est à qui vous le tendez? À votre propre âme. Faire du mal aux autres, c'est se faire du mal à soi-même. Vous aurez compris ce proverbe. Si vous faites du mal aux autres, vous vous faites du mal à vous-même. Votre péché contre les autres vous trouvera, ça fera ricochet et vous en serez vous-même atteint. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, l'homme qui voudrait de l'argent, qui ne pense qu'à l'argent, en avoir davantage. Eh bien, quand vous sentez en vous ce besoin, ah, il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent, eh bien, souvenez-vous de ce proverbe. La cupidité, c'est-à-dire l'amour de l'argent, cause la perte de ceux qui s'y livrent. Ils voulaient de l'argent. Puis qu'est-ce qu'ils trouvent? Peut-être la mort. Ils trouvent peut-être la mort, d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas au moment où ils font leur coup, c'est plus tard quand ils sont arrêtés, car retenus en prison, ce n'est pas bien mieux que la mort. Alors, maintenant, depuis le verset 20, on reviendra sur tout ça. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle est à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Et qu'est-ce qu'elle dit, la sagesse? Jusque à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Vous ne savez pas que ce verset est beau et qu'il est à souligner dans votre Bible? Après, c'est en vain que le filet est étendu devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Voilà ici. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Ah, mes amis, méditez, soulignez quelques-unes de ces paroles. Hein. La terreur qui doit vous saisir, comme une tempête. Le malheur qui doit vous envelopper comme un tourbillon. La détresse et l'angoisse qui vont fondre sur vous. Malheur, terreur, tempête. Tourbillon, détresse, angoisse. Vous connaissez ça? J'espère que non. Parce qu'alors, justement, quand on se trouve dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils m'appelleront. Et qu'est-ce qui arrive? Je ne répondrai pas, on ne se moque pas de Dieu. Il nous a appelé tellement de fois, plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, puis on se moque de lui. Il nous a tendu la main, on n'a pas voulu la saisir. Jésus a fait cette expérience dans tout son ministère, et il arrive à la fin de son ministère, et il dit, que de fois j'ai voulu, mais vous n'avez pas voulu. Et il pleure en pensant à ce qui va arriver à cette ville de Jérusalem qui n'a pas connu le temps où elle était visitée. Jérusalem, Jérusalem. Il voyait déjà du sommet de la montagne des Oliviers les armées romaines qui en l'an 70, 40 ans après la crucifixion, ont détruit la ville, ont brûlé la ville, ont ouvert le ventre des femmes enceintes, ont égorgé, ont violé. On pouvait crier à Dieu. C'était l'heure du jugement. C'était trop tard. Alors ils m'appelleront, verset 28, voyez ce que c'est que la parole, et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la connaissance, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous voulez choisir la crainte de l'Éternel? On va y revenir dans un instant. Quel est votre choix? Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Alors, ils se nourriront du fruit de leur voix. C'est pas Dieu qui punit. C'est eux-mêmes qui se sont donnés, au fond, les instruments de leur châtiment. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasiront de leurs propres conseils. Ils ont voulu mettre Dieu hors de leur vie. Eh bien, maintenant, Dieu n'est pas là. Et alors, eux qui se croyaient Dieu, ils ne voient qu'ils sont que des hommes. Et comme il est dit dans Ézéchiel, devant celui qui te tuera, diras-tu, je suis Dieu? C'est ce qu'on entend très souvent, mais moi je suis Dieu. C'est ce que les hommes nous disent. Devant celui qui te tuera, diras-tu, je suis Dieu. Car, verset 12, verset 32, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais, verset 33, vous pouvez encore le souligner, comme un de ces versets de grâce, celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Celui qui m'écoute. En tout cas, il y a pour moi, dans cette partie du chapitre, trois versets que je souligne d'une façon très particulière parce qu'ils me font vraiment du bien. C'est le verset 17. C'est le verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, et je vous ferai connaître mes paroles. Puis le verset 33, celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Alors, mes amis, je reprends brièvement maintenant ce verset 7. Le verset 7, c'est comme un grand portique sous lequel nous passons et qui nous fait entrer dans ces enseignements du Dieu vivant. Et sur ce portique, il est mis la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Mais qu'est-ce que c'est craindre l'Éternel? Est-ce que c'est avoir peur de lui? Non. Ce n'est jamais avoir peur de Dieu. C'est avoir peur de faire quelque chose qui ne plaise pas à Dieu. Hein? Si Dieu existe, il est Dieu. Hein? Et s'il est Dieu, on devrait lui obéir. Mais si c'est simplement parce qu'on doit lui obéir, c'est difficile. Qu'est-ce qui est facile? Quand est-ce que l'obéissance devient facile? Quand on aime. Hein? Si vraiment on aimait, ce serait facile d'obéir. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. C'est pourquoi nous disions ce matin, ce que nous demandons à Dieu, c'est qu'il nous donne de l'aimer. Mais je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Est-ce que Dieu peut être connu? Est-ce que Dieu peut être connu? Voilà la grande question. est qu'on peut connaître Dieu? Pour apprendre à connaître Dieu, il faut d'abord cette crainte. Il faut, quand nous pensons à Dieu, nous dire, mais si Dieu est Dieu, je dois le respecter. Je veux chercher à faire ce qui lui plaît. C'est là le commencement de la connaissance. Ce n'est pas encore la connaissance, mais c'est le commencement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, ou le commencement de la sagesse. Mais vous voyez, immédiatement après cette première partie du verset, il y a une seconde partie, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés, qu'est-ce qu'ils disent? L'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors, si j'ai cette théorie, Dieu n'existe pas, je ne m'occupe pas de chercher à lui plaire, puisque Dieu n'est pas là. Dieu n'existe pas. Mais l'Écriture dit, les insensés, ou l'insensé a dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense que Dieu n'existe pas? Comment l'Écriture l'appelle? Celui qui nie l'existence de Dieu, un insensé, c'est-à-dire un fou. Nier l'existence de Dieu, c'est être fou. Mais croire que Dieu existe et ne pas lui obéir, ne pas obéir à ses commandements, c'est encore être fou. C'est une autre sorte d'insensé. Et cela, vous l'avez dans le psaume 14. C'est l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais dans Jérémie 4, il est dit, ce peuple m'honore, ils disent qu'ils croient en moi, mais ils ne me connaissent pas. Ils croient que j'existe, mais ils ne suivent pas mes paroles. Eh bien, ils sont une multitude, ces gens qui disent, oh mais moi je crois qu'il y a un Dieu. Mais oui, alors vous croyez qu'il y a un Dieu, mais ce Dieu, il a parlé. Et qu'est-ce que vous faites de sa parole? On ne s'en soucie pas. Mais qu'est-ce que c'est cela? Ne pas se soucier des instructions de Dieu, de ce que Dieu a dit. C'est être fou. Et alors, vous voyez que ça ressemble à l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus disait? Est-ce qu'il a parlé d'un sage et d'un fou? Vous connaissez bien le petit cantique qui a été tiré du sermon sur la montagne. Le sage, sur le roc, a bâti sa maison. Le fou, sur le sable, a bâti sa maison. Chacun bâtit sa maison. Alors, pendant un temps, il semble que tout va bien. Mais quand les épreuves arrivent, qu'est-ce qui se passe? On voit sur quel fondement est basée notre vie. Et si ce n'est pas sur le Christ, si ce n'est pas sur Dieu, eh bien, c'est la catastrophe. L'insensé. Vous voyez qu'on est en plein évangile, là. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Si je sais que Dieu existe, et comme l'a dit Jésus dans le sermon sur la montagne, quand il a eu fini son sermon, il a dit, « Celui qui écoute ma parole et qui la garde, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur la roc. Celui qui écoute mes paroles, mais qui ne les met pas en pratique, je le comparerai à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Voilà, déjà dans les proverbes, vous y trouvez l'enseignement que nous pouvons lire dans les évangiles et qui sortent de quelles lèvres? Des lèvres de Jésus, c'est plus Salomon, c'est Jésus lui-même. Maintenant, vous voyez depuis le verset 8 au verset 19, on a un enseignement remarquable. Versets 8 et 9, c'est d'abord l'instruction qu'un jeune homme doit recevoir dans la maison paternelle. La première instruction que nous devons retenir, qui est-ce qui doit nous la donner? Notre père et notre mère. Écoute mon fils. Là, c'est quelqu'un donc qui a la connaissance de Dieu, qui est déjà en relation vraiment avec le Seigneur. C'est là la qualité de fils. Un fils, il a une relation avec son père. Et ça nous fait penser à quoi? Écoute l'instruction de ton père, n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. Est-ce qu'il est dit dans Éphésiens 5? Va un chapitre plus loin. Éphésiens 6. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. C'était ça?
Oui.
Ouais. Alors c'est Éphésiens 6. Verset 1 et 2. Écoute mon fils l'instruction de ton père. Si on a eu un père croyant, eh bien, nous pouvons garder son instruction. Ça doit nous être très cher, ce que notre père nous a enseigné. Puis, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement le père qui enseigne, mais c'est aussi la mère. Et voyez-vous, dans les premières années de la vie, c'est surtout la mère qui enseigne un enfant. Et c'est pourquoi, dans le livre des rois, il est presque toujours parlé de la mère du roi. Le nom de sa mère était, puis il y a son nom. Et le roi fit ce qui était bon aux yeux de l'Éternel. Ou le roi fit ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Mais le nom de sa mère était. Parce que l'instruction d'un petit enfant, elle doit être faite par qui? Par la mère. Ne pensez pas que vous pouvez remettre l'instruction de vos petits-enfants à d'autres personnes. Parce que vous ne seriez pas qualifié. C'est archi faux. Puisque vous êtes mère, vous avez été qualifié pour être mère, le Seigneur vous donnera les paroles que vous devrez apporter à vos enfants. Et voyez-vous, quand un enfant arrive à l'âge de 5 ans, eh bien, il est déjà formé. On sait à peu près ce qu'il donnera. Et ça peut venir aussi beaucoup de l'enseignement d'une mère. Mais nous sommes exhortés, si vous voulez être bénis, à garder l'instruction d'un père et l'enseignement d'une mère. Et qu'est-ce que ce sera pour vous, verset 9? Une couronne. Une couronne olympique? Non, une couronne, mais une couronne de grâce pour ta tête. Je trouve que c'est magnifique, ça. Si tu suis simplement l'enseignement, mais tu es couronné, tu as une beauté, tu es décoré. C'est une couronne de grâce pour ta tête. On pourrait parler longuement de toutes les couronnes dont nous parle la parole. Bien, simplement de garder l'enseignement qu'on a reçu d'un père croyant, d'une mère, si on a eu ce privilège, c'est une couronne. Puis, il est dit que c'est une parure pour notre cou. Darby dit un collier pour ton cou. Et vous savez qu'en Orient, quand on voulait manifester qu'on élevait quelqu'un à un poste de responsabilité, on lui mettait un collier au cou. Ce fut le cas de Joseph. Quand le pharaon a découvert qui était Joseph et qu'il l'établit sur toute l'Égypte, il a mis un collier à son cou. C'est un collier à son cou. Eh bien, Joseph, lui, c'était justement un homme, et là on peut prendre cet exemple, c'était un homme qui a reçu l'enseignement de son père et qui a gardé l'enseignement de son père alors qu'il était en Égypte. Maintenant, vous voyez, on a dit qu'on chercherait des exemples, mais ça irait trop loin, mais l'exemple de fou qui méprise la sagesse et l'instruction, à qui penseriez-vous? Caïn. Dieu lui-même a voulu l'enseigner. Il a méprisé la sagesse et l'instruction. Caïn était un fou, il était du malin. Les fils du vieil Élie, ils ont été avertis plusieurs fois. Est-ce qu'ils ont obéi? Ils ont méprisé la sagesse et l'instruction. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La mort. 1 Samuel 25-25. Maintenant, Roboam, ce fils même de Salomon, est-ce qu'il a écouté l'enseignement que lui avait donné son père à ce moment-là? Non. Alors, lui aussi a été un fou. 1 roi 12, verset 13. Puis, on pourrait prendre d'autres exemples dans le Nouveau Testament. Maintenant, un exemple alors du verset 8. Donc, ces fils qui ont écouté l'instruction d'un père. Vous pouvez prendre Isaac, qui a écouté l'instruction de son père, qui n'a pas épousé une femme étrangère, mais qui a épousé la femme que lui avait amenée le serviteur d'Abraham, de son père. Moïse, lui aussi, est un exemple d'un homme qui a écouté l'enseignement, surtout de sa mère, parce que c'est elle qu'il a allaité, et avant qu'il aille dans la maison du Pharaon. Et Moïse a retenu l'enseignement de sa mère. On pense que Moïse n'a été donné à la fille du Pharaon qu'à l'âge de 7 ans, une fois qu'on avait fini vraiment l'allaitement total, puisqu'on allaitait longtemps, jusqu'à 5, 6 ou même 7 ans dans ce temps-là, allaitement mixte. Et c'était la meilleure nourriture qu'un enfant pouvait avoir dans ces pays pauvres. Un autre exemple, c'est Samuel. Samuel a gardé l'enseignement de sa mère. C'est passionnant de lire ces choses-là. Dans les épîtres de Paul, est-ce que vous pensez à quelqu'un qui s'est souvenu de l'enseignement de sa mère et de sa grand-mère? Timothée, hein? Voilà, vous voyez, tout cela vient éclairer ce texte. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est une couronne de grâce pour ta tête, une parure pour ton cou. Et alors, dans la maison, puisqu'on sait que nos enfants vont nous quitter un jour, alors on les avertit. On sait très bien qu'on ne pourra pas garder toujours nos enfants sous notre contrôle. Tu vas nous quitter, tu vas faire des études peut-être, et là tu vas rencontrer des camarades. Justement, c'est verset 10, « Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire. » On sait très bien que nos enfants vivent dans un monde de péché et de pécheurs. Alors on les avertit, on leur dit, voilà, ne te laisse pas gagner, voilà ce qu'ils vont te dire, viens avec nous. Ils vont te proposer des choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas droites, des choses qui sont mensongères, des choses qui t'entraîneront peut-être dans la violence. Eh bien, ne te laisse pas séduire, même s'ils te disent qu'ils sont sûrs de réussir leur coup. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas certain. Peut-être qu'ils en réussiront un. Tu auras part avec eux à leur vol, mais enfin, tu seras toi-même un voleur. Alors, vous voyez, un père, il enseigne son fils. Il lui dit ce qui est juste, il lui dit ce qui est faux. Il lui dit qu'il y aura sur son chemin un filet qui sera souvent étendu. On cherchera à le faire tomber, mais il lui dit comment il peut passer par-dessus. Si tu as la connaissance de ces dangers, eh bien, tu le sais et tu ne vas pas y tomber. Alors, vous avez donc d'abord un enseignement qui est donné où? À la maison. L'enseignement qui est donné à la maison. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons un enseignement à donner à nos enfants, à nos petits-enfants, à la maison? C'est tout ce que nous pouvons trouver dans ces versets. Et de bien leur montrer que ceux qui essayent de nous entraîner au mal, eh bien, ils pêchent contre leur propre âme. Ils se font du mal à eux-mêmes. Mais maintenant que l'enfant nous a quittés, eh bien, qu'est-ce qu'on voit depuis le verset 20? Ce n'est plus un enseignement qui est donné à la maison, mais on voit que Dieu, dans sa grâce, même dans le monde, il fait encore entendre sa voix à celui qu'il a déjà entendu à la maison. Il parle une fois, il parle deux fois. Verset 20. La sagesse crie dans les rues. Donc, vous n'êtes plus à la maison, mais vous êtes dans les rues. C'est le va-et-vient du monde. Vous êtes pris dans vos occupations. Mais même dans vos occupations, là où il y a des lieux bruyants, sur les places, aux portes de la ville, elle fait entendre ses paroles. Dieu a des moyens pour vous rappeler ses paroles. Puis qu'est-ce qu'elles vous disent, ces paroles? Bien, on vous exhorte. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Mais c'est stupide de se couler soi-même. Jusqu'à quand, moqueur? Vous plairez-vous dans la moquerie? Jusqu'à quand les insensés haïront-ils de la science? Et alors, quel est cet appel? C'est vraiment l'évangélisation. Tournez-vous vers moi, c'est convertissez-vous. Tournez-vous, ça veut dire demi-tour. C'est la conversion. Donc, dans les proverbes, là, vous avez un message tout à fait évangélique. Et on peut employer ce chapitre, par exemple, pour faire de l'évangélisation. Tournez-vous vers moi pour écouter mes réprimandes. On dira, moi, je n'aime pas les réprimandes. Mais c'est justement parce qu'il nous aime qu'il nous réprimande. Et même si vous avez un père qui vous réprimande, un jour, vous le remercierez. Heureusement que tu m'as réprimandé. Et que tu m'as discipliné. Et alors, si on écoute ces réprimandes, qu'est-ce qui nous arrivera? Vous le croyez? Qu'est-ce que vous avez là au verset 23? Je répandrai sur vous mon esprit. Mais si nous ne voulons pas écouter ces réprimandes, si nous voulons suivre nos propres voies, est-ce qu'il nous donnera son esprit? Que pensez-vous? Non. Le Seigneur ne peut pas vous donner son esprit si vous ne voulez pas le suivre, si vous ne voulez pas l'écouter. Et je vous ferai connaître mes paroles. Bien, je demande au Seigneur que vraiment nous soyons disponibles et disposés dès ce soir pour écouter ces paroles. Mais voyez, verset 25, puisque vous rejetez tous mes conseils, puisque vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, comme une tempête, que le malheur vous enveloppera, comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Parce qu'il y a un temps de grâce, il y a un temps de paix, mais aussi il y a un temps de jugement. On n'y avait pas pensé. Puis voilà, tout à coup, c'est une succession de malheurs. Alors à ce moment-là, on se souvient. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Ça vous fait penser à quel passage, ça? Ésaïe 55. Cherchez-moi pendant qu'on le trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche, qu'il est là. Oui. Vous voyez, verset... Chapitre 55 d'Ésaïe. Verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Du côté de Dieu, il y a toutes les possibilités. Vous pouvez en finir avec le mal. Mais si vous ne voulez pas, eh bien, je ne peux pas vous promettre que demain, vous le rencontrerez. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ne me trouveront pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont haï ma connaissance. Parce qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Et vraiment, là, vous avez les sentiments de Jésus. La nuit où il fut livré, il a pleuré. Après 3 ans de ministère, son âme était triste. Il disait, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché. Jean chapitre 15. Mais maintenant, leur péché demeure. Ils sont responsables. Et Jésus pleurait à cause de l'endurcissement des cœurs. Ils n'ont pas aimé mes conseils. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ce n'est pas les réprimandes de Salomon, là, hein. C'est les réprimandes du Seigneur. bien, ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue. Qui est l'homme que Moïse allait trouver plusieurs fois, puisque on nous a parlé de l'Égypte, et auquel Moïse disait, « Ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. » Le pharaon a dit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Bon, ça a été une fois, ça a été deux fois, ça a été trois fois, quatre fois. Qu'est-ce que le pharaon a fait? Il a endurci son cœur. Et pour finir, il a dit, « Et Dieu endurcit son cœur, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. » Et alors, il a été complètement stupide. Et c'est sa stupidité qui l'a tué. Parce où a fini le pharaon? Dans la mer Rouge. Alors, vous voyez, comme tout est clair ici, car la résistance des stupides les tue. Il était stupide, le pharaon. Pourtant, il a vu quel miracle, quel signe. Les plaies d'Égypte hein, qui se sont succédées pour essayer de le convaincre qu'on ne résiste pas à Dieu. Mais il a toujours résisté. Puis, un jour, eh bien, il est entré dans ce chemin qui était tracé à travers la mer et qui donnait la délivrance aux Israélites. Mais à lui, qu'est-ce que ça lui a donné? Le chemin de la délivrance des Israélites était pour lui le chemin de la mort. Si vous méprisez le Seigneur, c'est le chemin de la mort. Les eaux l'ont recouvert. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Et là, je pourrais vous citer une foule de cas. Mais si vous pouvez comprendre pour lire après vous-même les proverbes et chercher tous ces exemples, parce que c'est il n'y a rien de plus éclairant que ces exemples bibliques. Vous voyez, on a pris le pharaon qui peut vous illustrer ça. Puis alors, verset 33, c'est notre dernier verset. Mais celui qui m'écoute. Vous voyez, le dernier verset après toutes ces choses, il y a encore un appel de grâce. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Celui qui m'écoute. Qu'est-ce qu'il aura? Il reposera avec assurance. Le Seigneur voudrait que vous ayez cette assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas par des tribulations, hein, mais on n'en aura pas peur. On ne vivra pas dans l'angoisse, on ne vivra pas dans la crainte. On acceptera de passer par l'épreuve, mais nous saurons que le Seigneur est avec nous. Les jeunes Hébreux, ils n'ont pas été délivrés de la fournaise, mais ils ont été délivrés dans la fournaise. Daniel n'a pas été délivré de la fosse au lion. Il a dû y entrer, mais il a été délivré dans la fosse au lion. Alors comprenons bien le sens de ces proverbes, de ces premiers chapitres. Est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que vous êtes intéressé? On pourra continuer? Vous avez une question? Mais vous voyez, je crois que ce serait bien faisant pour vous, au moins dans ce chapitre, de noter un ou deux versets qui peuvent vous rester et que vous pouvez même apprendre par cœur. Puis alors après, quand on est dans, on n'a pas toujours sa Bible ouverte, hein, mais on est dans le quotidien, on doit agir. Puis tout à coup, bien voilà, on a ce discernement parce que on vit dans la crainte du Seigneur, c'est-à-dire on voudrait pas lui déplaire. On se dit tout de suite, est-ce que ça plaît au Seigneur? Alors c'est très clair, on a tout de suite la réponse. Alors Seigneur, donne-moi la force. Moi, ça me plairait de faire ceci, de faire ça, mais ça te plaît pas, Seigneur. Moi, je préfère ne pas le faire. Mais on le fait non plus pour obéir seulement parce qu'on a peur, mais on le fait par amour. Alors ce que je demande au Seigneur, c'est qu'il nous donne vraiment cet amour. Parce que vous savez, c'est l'unique péché, c'est de ne pas aimer. Parce que c'est quand on n'aime pas qu'on pêche. Mais celui qui aime, il est gardé par le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir permis de commencer l'étude de ces proverbes. Nous te prions de nous préparer pour le culte de demain et pour ce chapitre 2, que nous puissions peut-être déjà le lire, puisque ce sera notre lecture du culte, mais que tu nous prépares aussi pour que nous ayons ce temps d'adoration, de louange, qui t'est dû et dont tu es dû. Que ta grâce repose sur chacune de nos âmes. Nous croyons éperdument que ta parole opérera dans mon cœur et que tu nous as dit quelque chose de personnel.